Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La lecture a ceci d'extraordinaire qu'elle permet de découvrir, de s'instruire, de s'interroger ou de se documenter tout en s'amusant. Comment Raqqa en Syrie est-elle tombée aux mains de Daesh? Qui a participé à la révolution égyptienne en 2011? Comment renouer avec le pays dont sa famille est originaire quand les liens sont rompus? Et les services de renseignement d'un pays comme Israël servent-ils toujours et uniquement à de l'espionnage? Quatre romans, quatre auteurs auxquels Orient Hebdo s'est intéressé durant cette année. Quatre belles idées de lecture pour l'été. C'est un premier roman cocasse et plein de tendresse qui se déroule entre Paris et Alger, la France et l'Algérie. Magic Babelwed, publié aux éditions Emmanuel Colas, a pour point de départ un secret de famille, comme nous l'explique son autrice Sabrina Cassin.
Eh bien, Anissa est une jeune femme qui habite à Paris. Ses parents sont algériens et elle est très éloignée de cette communauté. Et les relations avec ses parents sont assez distantes. Et elle découvre un soir que son père est harki. Et donc c'est ce secret qu'elle a envie de percer. Et elle décide donc d'aller à Alger, à Babelwed, rencontrer son oncle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Rappelons ce que sont les harkis précisément.
Alors les harkis précisément, c'est un peu difficile à définir en une phrase. Mais généralement, c'est ceux qui ont pris parti pour la France pendant la guerre d'Algérie. Alors il y a une myriade d'harkis, il y a ceux qui ont vraiment intégré l'armée, et puis il y en a plein d'autres qui ont plus ou moins collaboré pendant la guerre.
Alors pour Anissa, c'est un choc, et elle décide de se rendre à Alger, où habite le reste de sa famille. Alors il y a un frère de son père, il y a ses enfants, et puis une famille qu'elle ne connaît pas et qui l'accueille avec finalement bienveillance.
Oui, avec bienveillance et aussi avec un peu de distance. Chacun se démène pour vivre. La vie à Alger est assez compliquée. Et en plus, il y a ce secret de famille, un peu comme un éléphant au milieu de la pièce. Et personne n'a envie d'assumer ce qui s'est passé et de lui transmettre l'histoire. Donc, ils sont gentils avec elle, mais ils la gardent à distance.
Distance ou curiosité aussi ?
Ben c'est un mélange des deux parce que ils ont quand même cette intelligence de savoir qu'elle n'y est pour rien. Et ça, c'est un propos que je veux vraiment tenir dans ce livre. C'est que on reçoit un héritage, on est issu d'une histoire, mais ce que nos parents ont pu faire, les défis, les enjeux que les parents ont pu vivre ne sont pas les nôtres. On doit les comprendre, mais on n'a pas à les assumer. Et la famille en Algérie l'accepte dès le départ. Ils savent que Anissa n'a pas à payer pour les erreurs de son père, elle n'a pas à payer pour les erreurs de la France. Elle, c'est la petite française pour eux, mais c'est avant tout leur petite cousine.
Alors c'est une famille qu'elle ne connaît pas, 50 ans de non-connaissance réciproque entre les deux familles, les deux branches de cette même famille, et elle découvre un cousin assez curieux, Shems.
Alors son cousin est noir, et à vrai dire, elle ne le remarque pas forcément au départ. On peut imaginer qu'il est un peu plus foncé que les autres. L'intrigue va tourner autour de ça. Et c'est aussi l'occasion, dans le livre, de parler du racisme contre les Noirs qui se développe aujourd'hui en Algérie.
Oui, parce que c'est un garçon qui est quand même très à l'aise dans son environnement, mais qui subit lui aussi un certain nombre de quolibets de la part de ce même environnement.
Oui, en fait, Anissa et Shems sont vraiment en miroir. Anissa, elle porte, malgré elle, cette histoire de son père, du fait qu'il ait pu être harki. Et Shems est noir parce qu'il est issu d'un viol. Sa mère a été violée pendant la guerre d'Algérie par un légionnaire français noir.
La société algérienne que vous brossez est assez désespérante. On y croise l'ennui, les petits boulots, la décrépitude, une sorte d'attente. Mais l'attente de quoi exactement ?
Eh bien, on se demande. L'attente de la fin de l'ennui. C'est vrai que les personnages sont très seuls. Il y a un passé très lourd qui ne passe pas et qui fige un peu tout. J'ai voulu montrer ça dans Magic Babelwed et en même temps le dépassement de cette situation. On sait bien qu'en Algérie aujourd'hui, la situation est assez dramatique, notamment pour les jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'espoir. La vie politique est complètement figée, on le sait bien. Mais en revanche, le peuple est jeune, il est drôle. Quand on entend parler les Algériens, quand on les entend parler le français, c'est toujours une langue très dynamique, créolisée presque entre le français et l'arabe. Et ça correspond bien en fait au regard que moi je porte sur les Algériens.
Magic Babelwed, un roman de Sabrina Cassa chez Emmanuel Colas Éditions. Avec Unité 8200, le journaliste et écrivain De Valfond nous entraîne dans les secrets des services de renseignement israéliens. On croise dans ce livre différents acteurs de ce monde inconnu qui a pourtant favorisé l'émergence de start-up devenues célèbres, comme Waze par exemple. Un monde où se mêlent intrigues et luttes de pouvoir, mais aussi l'ennui qui conduit parfois à utiliser les moyens mis à sa disposition par l'armée à des fins personnelles. Le roman de De Valfond est une fiction, mais l'unité 8200 existe bel et bien.
Oui, c'est l'unité de renseignement la plus importante d'Israël. Du point de vue de la qualité, de la quantité des renseignements qu'elle donne à Tsahal, donc à l'armée israélienne avant toute opération, comme par exemple le bombardement de la centrale nucléaire syrienne, avant cela le bombardement de la centrale nucléaire irakienne de Saddam Hussein, et des t'as encore d'opérations militaires d'envergure, unité 8200 est derrière avec des renseignements venus de sources électroniques. Elle donne 10 fois plus de résultats et elle a un budget considérablement supérieur au Mossad, par exemple, qui est bien plus connu à l'étranger.
Donc, votre livre, qui est un roman, rappelons-le, c'est aussi quelque part un documentaire.
J'étais étonné. Après des années donc comme officier de renseignement de l'unité 8200, j'étais étonné de voir que tous les romans d'espionnage, anglo-saxons bien sûr, mais aussi israéliens, venaient d'organismes de renseignement qu'on appelle humains, c'est-à-dire par exemple la CIA, le Mossad, où il y a des agents secrets qui prennent quelqu'un en filature et qui pénètrent dans des appartements. Alors que dans mon expérience, 90% de l'espionnage se fait aujourd'hui par satellite, par ordinateur, par algorithme. Et je voulais raconter cela. Et ça a commencé comme ça. Donc c'est vrai, c'est mon expérience, c'est basé sur une unité qui existe véritablement, mais c'est un roman, hein, c'est un roman d'espionnage.
Alors, vous dites que l'humain est peut-être un peu moins présent dans les services de renseignement, c'est votre expérience en tout cas. Pourtant, l'humain existe quand même, puisqu'on a l'impression que dans les différents services de renseignement israéliens, ceux-ci sont à la fois imbriqués, très imbriqués, et en même temps très autonomes.
Alors, tout est humain, et vous avez tout à fait raison de voir ce conflit, ces guerres intestines israéliennes comme importantes pour comprendre ce qui se passe. Réellement, c'est un peu la même chose aux États-Unis entre la NSA et la CIA, par exemple. Vous savez, Graham Greene avait un roman au titre admirable, Le facteur humain, un roman d'espionnage en Afrique du Sud. Et pour moi, chaque roman d'espionnage devrait s'appeler Le facteur humain. Le titre étant pris, j'ai préféré Unité 8200. Mais en réalité, le vrai problème, c'est que même avec des ordinateurs super puissants, même avec des algorithmes très perfectionnés, même avec des satellites ultra intelligents, on atteint toujours une faille. Il y a toujours un humain quelque part qui va dérégler, qui va fausser cette machine bien huilée, quelque chose de totalement inattendu. Et donc, pour un opérateur, pour revenir à l'unité 8200, un opérateur tout seul dans le désert, il est 3h du matin et il a devant lui cet ordinateur qui sait faire des choses incroyables, est-ce qu'il n'y va pas avoir à cause de l'ennui, à cause d'une envie romantique soudaine, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va fausser le système?
Justement, donc vous décrivez bien cette formidable technologie dont s'approprie un petit élément, un caporal dans le désert, dans cette unité. Il a à la disposition cette formidable technologie. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un se serve de la technologie? On a dit aussi beaucoup que les technologies développées en Israël avaient pour origine justement la recherche, le renseignement israélien.
Tout à fait. D'abord, ce sont les faits que beaucoup de toutes ces applications que nous utilisons, beaucoup de ces percées technologiques sur Internet et pas seulement, proviennent d'Israël, mais proviennent surtout d'ingénieurs israéliens qui étaient dans les services de renseignement et en particulier à l'unité 8200. C'est le cas, par exemple, d'une application que beaucoup connaissent dans le monde et qui s'appelle Waze, qui vous permet d'éviter les bouchons le matin sur la route du travail. Elle a été développée par l'unité 8200 et donc commercialisée par 3 anciens qui ont fondé une entreprise privée. Mais c'est le cas d'énormes quantités de petits développements. En fait, à chaque fois qu'on envoie un texte qui n'est pas cellulaire, autrement dit, par exemple le Messenger ou autre, le e-message, on utilise une technologie de l'unité 8200.
Unité 8200 de Devalfon, un thriller publié chez Lana Lévy.
Orion Hebdo sur RFI.
L'Égyptien Alaa El Aswani se souvient de 2011, les 18 jours de la révolution sur la place Tahrir, en plein cœur du Caire. Il en donne un roman, J'ai couru vers le Nil, qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi dans son pays pour insultes envers le président, les forces armées et les institutions judiciaires. Son récit s'attache pourtant à raconter non les événements politiques, mais la petite histoire humaine.
Moi je pense que la littérature doit présenter l'histoire humaine. Et pas l'histoire politique. L'histoire politique, ça, on le sait. On n'a pas besoin de lire un roman de 600 pages pour savoir ce qui s'est passé. Mais on a besoin, à mon avis, de lire un roman pour savoir l'histoire humaine de la révolution. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de présenter dans ce livre. L'histoire humaine.
Alors justement, ces événements de la place Tahrir, en 2011, au Caire, comment vous les avez vécus?
Ah, mais c'était un grand moment de ma vie. J'ai passé 18 jours inoubliables et j'ai appris beaucoup de choses et vous allez trouver ça dans le roman. C'est un moment inoubliable parce que je me suis trouvé dans une vraie révolution avec des vrais révolutionnaires face à face avec la mort. La mort n'était plus une idée, mais c'est quelque chose qui se passe juste à côté de vous. Alors, j'étais vraiment ému par cette expérience, et à un moment donné, j'ai décidé d'écrire ce roman.
Alors, ce n'est pas un roman d'historien, c'est un vrai roman, romancé, mais est-ce que derrière tous ces personnages, dans la galerie de portraits que vous offrez, il y a de la réalité?
Oui, absolument. Mais la formule a été toujours un personnage littéraire égale une ou des personnes réelles, plus l'imagination. J'ai été inspiré par une personne pour écrire un personnage. Il y a toujours mon imagination qui va changer. Changer la personne pour avoir le personnage. Alors j'ai été toujours inspiré, pas seulement dans ce roman. Dans tous mes romans, j'étais inspiré par des réalités, des événements, des personnes que j'ai rencontrées.
Le général Alaoui, par exemple, c'est
oui,
quelqu'un qui existe aujourd'hui en Égypte,
oui.
Ou qui a existé.
Non, qui a existé toujours, malheureusement. Et qui voit aucune contradiction entre la torture et la religion.
Justement, ce livre, votre livre, s'ouvre sur le portrait de ce général Alaoui, chef de la sécurité. C'est un militaire dont le comportement fait froid dans le dos, un homme qui a peu de faiblesses, à part les films pornographiques. Sinon, peut-être une faiblesse, sa fille. Dania est-elle représentative, elle, de ces jeunes qui ont initié la révolution?
Absolument. Parce que moi, j'ai rencontré des jeunes qui viennent des familles très riches et liées à la famille Moubarak, qui se sont révoltés non seulement contre Moubarak, mais contre leur propre famille. Vous voyez, parce que la conscience de la révolution est diffusée partout jusqu'à un moment que vous trouvez des jeunes qui dépassent les intérêts de leur classe sociale. Vous voyez, alors moi, oui, j'ai rencontré des jeunes comme Dania.
Mais il n'y avait pas que des jeunes comme elle, donc issus de belles familles ou de bonnes familles.
Non, mais la majorité étaient des pauvres. Mais aussi, il y avait quelques-uns qui viennent des familles dont la classe sociale est la même classe de Moubarak.
Dans votre roman, il y a des mélanges entre groupes de jeunes qui sont issus de familles illustres ou en tout cas fortunées, bien éduquées, et puis d'autres qui sont issus plutôt de classes moyennes, voire inférieures. Ce mélange-là, il a réellement existé en 2011.
Oui, exactement. C'est ça la formule de la place Tahrir. Il y avait tout le monde. Il y avait des bourgeois, il y avait des gens du sud, il y avait des gens très simples, il y avait des intellectuels, il y avait des femmes voilées, des femmes qui n'étaient pas voilées, des chrétiens, il y avait tout le monde. Alors moi j'ai présenté la formule que j'ai vue, que j'ai vécue à la place Tahrir.
Et il y a eu des familles déchirées, avec des membres de la famille qui étaient pro-Moubarak par exemple, d'autres pro-révolution, d'autres pro-autre chose.
Absolument, et ça continue jusqu'à maintenant. Et je dirais même, dans chaque famille en Égypte, il y a deux visions, deux opinions, l'opinion des jeunes et l'opinion des parents. Et c'est rarement que c'est la même opinion. Parce que ce sont deux consciences et deux visions de monde très différentes.
J'ai couru vers le Nil, de l'Égyptien Alaa El Aswani, est édité chez Actes Sud. La ville de Raqqa, en Syrie, a longtemps fait figure de capitale de l'État islamique. Pourtant, jusqu'à la mi-2013, la cité restait politiquement et socialement très ouverte, pluriethnique et multiconfessionnelle. Dans ces conditions, on peut se demander comment Daesh a pu s'y implanter et durablement. Meurtre à Raqqa, de Yannick Laude, nous donne quelques éléments de réponse.
Il y avait un vrai mouvement, et notamment à Raqqa, il y a une association politique qui s'appelle Hakuna, un autre droit, qui est né, dont le fonds de commerce était les professions intellectuelles, évidemment, des professeurs, des avocats, des universitaires, qui a trouvé une base sociale au moment où la Syrie entrait en ébullition. Raqqa est une ville très tranquille pendant très longtemps, et d'ailleurs, la brigade des révolutionnaires de Raqqa, dont je parle, n'a pas du tout évolué de djihadiste. Aujourd'hui, quand on parle des forces démocratiques syriennes kurdes avec des alliés arabes, c'est eux, notamment, c'est ces gens de Raqqa. Donc il y avait une vraie volonté à Raqqa, large frange de la population, d'avoir une révolution tranquille, si je puis dire.
Est-ce que Raqqa est une ville plus religieuse que les autres en Syrie ?
C'est une ville qui est réputée plutôt pieuse, mais pas salafiste. C'était pas la base de la ville. Donc, il y a eu un énorme apport étranger. Quand je dis étranger, je ne veux pas parler d'Européens, hein, mais d'autres pays arabes, beaucoup de Saoudiens notamment, qui ont apporté avec eux ce qu'on sait, quoi.
Alors, malgré tout, courant 2013, on peut dire que le pouvoir, finalement, est assez partagé à Raqqa. Il y a, bien entendu, l'ASL laïque et révolutionnaire. L'ASL, précisons que c'est l'armée syrienne libre, avec un certain nombre de composantes islamistes ou non-islamistes, d'ailleurs.
Exactement, exactement.
Il y a aussi des islamistes dits modérés, vous les décrivez, ce sont apparemment les fils du prophète, où il y a encore, évidemment, Jabhat al-Nusra, Daesh, et puis les brigades des étrangers. Voilà, tout ce petit monde essaye de diriger la ville.
L'ASL elle-même, une association étrange, parce que la brigade des petits-fils du prophète est une brigade de l'ASL. Hein. C'est une brigade qui a été créée et tenue par les frères musulmans, mais qui n'est pas al-Nusra, donc qui est opposée à al-Nusra, mais qui n'est pas encore moins Daesh, évidemment, mais qui est quand même un fond islamiste, hein, c'est les frères musulmans. À Raqqa, il y a aussi la brigade des révolutionnaires de Raqqa, hein, qui étaient quand même les plus nombreux, et sont venues toutes sortes de brigades, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup moins centralisé que ça a été pour la suite. Il y avait beaucoup de courants, en fait, différents qui pouvaient s'affronter dans la ville. Effectivement, au moment de l'action du livre, Daesh va tenir la ville finalement définitivement qu'en janvier 2014. Il y aura pendant 6 à 7 mois une résistance des autres factions et une résistance de la population assez importante à Raqqa. Daesh ne s'est pas imposé si facilement, je crois que je le montre dans ce livre, et ça va continuer. Évidemment, ils finiront par être écrasés, ce qui est assez terrible quand on connaît la suite, mais il y a eu une vraie résistance de la population raqqaoui jusqu'à janvier 2014.
Alors, vous décrivez un discours qui est absolument incroyable de Aboubakar al-Baghdadi dans le palais du gouverneur à Raqqa. Et alors, dans ce discours, al-Baghdadi pointe directement les Kurdes, c'est l'ennemi public numéro un à combattre. Pourquoi ?
Parce que, bon, al-Baghdadi se revendique du wahhabisme. Et le wahhabisme, la chose la plus importante pour eux, c'est le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Et aussi dans la façon de rendre hommage à Dieu, et en fait dans toute la liturgie musulmane. Enfin, en tout cas, qu'ils estiment devoir être la liturgie musulmane. C'est une école, ou une secte, selon ce qu'on veut dire, qui est contraire aux écoles traditionnelles, enfin pas toutes d'ailleurs, mais enfin en tout cas à l'anafite qui est dominante en Syrie. Et les Kurdes sunnites ont eux-mêmes leur particularisme très fort. Donc le wahhabisme ne peut pas accepter des particularismes, puisque tout doit être unique. C'est quand même une pensée totalement totalitaire. Les Kurdes étant par ailleurs, de toute façon, des ennemis un peu traditionnels des Arabes dans le coin. Donc c'était un peu facile de s'en prendre aux Kurdes, parce que ça mobilise les Arabes et les tribus locales quand même, de s'en prendre aux Kurdes. Donc c'était aussi habile politiquement, mais idéologiquement, le Kurde sunnite, je parle même pas alors des Kurdes qui sont pas musulmans, mais le Kurde sunnite est de toute façon un ennemi idéologique à abattre.
Yannick Laude, auteur de Meurtre à Raqqa, chez l'éditeur Albin Michel. Bonne lecture à tous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle édition d'Orient Hebdo avec Mathias Golshani à la mise en onde. Dans une poignée de secondes, le journal.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.